France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Il s'agit d'une pratique qui remonte au XVIIIe siècle avec Franz Mesmer, le célèbre médecin viennois installé à Paris pour traiter ses patients. L'hypnose médicale qui n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. L'hypnose médicale qui s'est peu à peu constituée en discipline sérieuse que les neurosciences étudient et que les médecins, psychologues, thérapeutes utilisent en cabinet ou à l'hôpital. Son efficacité a été prouvée pour certains troubles ou pathologies, même si nous le verrons, l'hypnose n'est pas une panacée. Mais depuis quelques mois, c'est une pratique qui peut inquiéter. Après l'affaire Gérard Miller, des dizaines de femmes accusent le célèbre psychanalyste de viol et d'agression sexuelle sous hypnose, jetant un voile sombre sur cette pratique. Nous verrons ce matin ce qu'est exactement l'hypnose, comment fonctionne cette immersion dans un état de conscience modifié, que dit la recherche scientifique, quelles sont les règles qui encadrent cette thérapie. Un hypnothérapeute peut-il vraiment mettre sous emprise un patient? Nos invités attendent toutes vos questions et vos témoignages sur l'hypnose et l'auto-hypnose au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Alors vous interviendrez tout au long de cette émission car vous êtes également hypnothérapeute et enseignant. Vous nous donnerez tiens en fin d'émission un conseil pour s'auto-hypnotiser en cas de stress ou d'anxiété. Alors dans votre chronique médicale, vous ferez le point sur ce que ne peut pas l'hypnose. Hein.
Tout à fait. L'hypnose est un humanisme, mais dans certaines limites.
Et ce n'est pas une panacée. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
C'est une montre ?
Oui, c'est exact. Une montre. Regardez. Ne regardez qu'elle. Vous voyez la lumière ? Moi, quand je la regarde, ça me donne envie de dormir. Ça me donne envie de dormir. De dormir. Écoutez mes instructions, écoutez attentivement, oui, voici ce que j'attends de vous. Je vais bientôt compter, à rebours, de 4 à 1. Après, vous devrez me faire un rapport complet sur la récente reconversion du numéro 6. 4, 3, 2, 1.
Nous sommes loin ici de l'hypnose médicale dans cet extrait de la série britannique des années 60, Le Prisonnier. Bonjour Antoine Bioy.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Paris 8. Parmi vos nombreuses fonctions, vous êtes également consultant au CHU de Bordeaux, cofondateur de la revue de l'hypnose et de la santé et du Que sais-je consacré à l'hypnose. Bonjour Constance Flamand-Rose.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, hypnopraticienne libérale et vous avez publié dernièrement aux Arènes quand l'hypnose soigne les médecins. Alors Antoine Bioy, qu'est-ce que l'hypnose pour ceux qui ont en tête l'image d'hypnotiseur de spectacle, Mesmer, non pas Franz Mesmer, le médecin viennois du XVIIIe siècle, c'est quoi exactement l'hypnose médicale? Ce n'est ni un état de vigilance, ni un état de veille, mais un état modifié de conscience. Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire que c'est une ressource que l'on possède tous, qui est à n'importe quel moment, et chacun peut aussi maintenant faire l'expérience de ça. On peut à la fois, par exemple, écouter quelqu'un à la radio, on peut l'écouter et vraiment vivre ce que la personne est en train de dire, on peut écouter juste le son de sa voix, juste les tonorités, éventuellement les chuintons, etc. Ça veut dire qu'il y a deux modalités, en fait, de conscience qui peuvent exister. Soit je suis participatif, soit je vais observer. Et lorsque l'on prend l'un et ensuite l'autre de chacun de ces deux modes, on change en fait l'état de conscience modifié. Et ce qu'on va appeler l'hypnose, c'est cette ressource, cette capacité qui va être de pouvoir changer notre état de conscience pour pouvoir, tour à tour, soit ressentir la réalité, soit pouvoir l'observer, pouvoir la modifier également.
Constance Flamand-Rose, pour bien comprendre ce qu'est l'hypnose, vous utilisez l'image de l'arbre. Nous sommes des arbres avec une partie visible, le tronc, les branchages, les feuilles, et une partie invisible, les racines. Et pour vous, l'hypnose, c'est faire communiquer les parties visibles et invisibles.
Oui, exactement. C'est cette espèce de dissociation qu'a l'arbre entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, et la dissociation qu'on peut avoir, nous aussi, entre ce qu'on est tout à fait consciemment et ce qu'on est sans en avoir une conscience parfaite, les ressources dont parlait Antoine tout à l'heure, qui nous viennent pas à l'esprit comme ça quand on est en plein état de conscience, mais dès que la conscience est un peu modifiée, Voilà, les racines et le tronc se rejoignent.
Bien souvent, nous pratiquons l'hypnose sans le savoir, quand nous sommes immergés, happés dans une activité qui nous captive, Antoine Burruy.
Alors, on pourrait effectivement le penser, on l'a pensé pendant longtemps. En fait, c'est un petit peu plus... c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on n'importe qui peut avoir un moment de distraction, un moment d'absorption qui va bien sûr être présent. Malgré tout, les recherches récentes montrent que pour faire de l'hypnose, il faut avoir une intention d'hypnose. D'accord. C'est-à-dire, il faut effectivement aller voir quelqu'un qui va proposer de travailler de cette façon-là, ou bien, lorsqu'on souhaite l'utiliser soi-même, ce qu'on appelle l'auto-hypnose, se donner vraiment... intentionnellement un moment pour modifier quelque chose chez soi, par exemple par autosuggestion. Et donc on pourrait dire finalement que faire de l'hypnose, c'est à la fois utiliser cette ressource dont on parlait, ce changement d'état de conscience qui va être là, pour pouvoir bénéficier de compétences qui sont présentes, mais de façon intentionnelle. Et ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que on peut dessiner la carte sur laquelle on va pouvoir naviguer.
Docteur Adrien Chaboch.
Oui, pour simplifier, moi j'utilise volontiers une métaphore pour expliquer ou définir l'hypnose, parce qu'il y a beaucoup de définitions de l'hypnose, c'est assez complexe. C'est une recette de cuisine. En fait, il faut des ingrédients et il faut quelque chose qui transforme ces ingrédients. Les trois ingrédients, c'est très simple. Il faut des techniques de communication. Ce sont celles-ci que nous apprenons assidûment en formation. Et cela demande une certaine maîtrise, une technique, une bonne connaissance. Le deuxième ingrédient, c'est un état de conscience particulier, mais naturel chez l'être humain, que l'on appelle plus largement la transe maintenant. Le troisième ingrédient, eh bien, c'est la relation thérapeutique. S'il n'y a pas de relation thérapeutique, il n'y a pas ce cadre de soins, on n'a pas le troisième ingrédient. Et enfin, ce qui va transformer ces trois ingrédients, c'est ce que vient de rappeler Antoine Bueil, c'est l'intention de soins, l'intention hypnotique d'accompagner quelqu'un. Si nous n'avons pas ces ingrédients ou cette intention, bah c'est assez simple, on n'est plus dans le cadre de l'hypnose. L'hypnose, depuis le 18e, comme vous l'avez rappelé Ali, est une technique de soins.
Et les origines de l'hypnose remontent donc à la fin du XVIIIe siècle. Le médecin viennois installé à Paris, Franz Anton Mesmer, découvre le magnétisme animal. Mesmer prétend qu'il existe un fluide magnétique qui flotterait dans l'univers. Pour lui, la mauvaise répartition de ce fluide dans le corps causerait des pathologies. Selon lui, le rôle du magnétiseur vise à harmoniser la répartition de ce fluide. C'était une théorie farfelue ou pas, Antoine Bueil?
C'est une théorie en fait historique, hein, parce qu'on retrouve également ses racines chez Hippocrate, etc. En fait, pour comprendre un peu la théorie du fluide de Mesmer, il suffit de revoir Star Wars en fait. La théorie de la force dans Star Wars, c'est totalement le fluidisme. George Lucas ne s'en est pas d'ailleurs caché. En fait, farfelu ou pas, on peut en tout cas considérer que la réalité n'est pas que du monde visible. Et qu'il y a effectivement, ne serait-ce que dans la relation que l'on peut avoir avec les gens, avec les choses, avec la nature, il y a également une façon d'être au monde qui va influencer notre santé notamment. Et donc sans doute que le fluide du point de vue matériel, comme le pensait Franz Anton Mesmer, est effectivement sans doute plus une métaphore qu'une réalité, mais le principe en tout cas qui est d'une certaine façon d'être au monde avec du visible et de l'invisible et de pouvoir jouer avec l'hypnose est plutôt une bonne intuition.
Alors au XVIIIe siècle, certains médecins s'intéressent aux thèses de Franz Mesmer, par exemple le médecin écossais James Braid qui affirme en 1843 qu'il n'y a pas de magnétisme, tout est suggéré. Et Braid démontre la force des suggestions qui orientent l'orientation des sujets et les guident vers un état qui ressemble au sommeil, mais qui n'est pas le sommeil. C'est encore d'actualité, ces recherches, ces théories de James Braid, Constance Lamoureuse.
En tout cas, on continue à chercher. Hein, les neuroscientifiques s'acharnent beaucoup à essayer de trouver... là, on n'est plus sur les zones du cerveau qui sont activées et qui sont, par exemple, sur un électroencéphalogramme, où on voit que l'état d'hypnose n'est pas le même, que le sommeil ou que la veille, etc. Donc on continue à chercher, probablement en se basant sur les travaux de James Braid. On a un peu évolué.
Et James Braid appelle hypnose cette nouvelle technique en référence au dieu grec de la nuit, Hypnos. Alors peu à peu, à la fin du 19e siècle, on commence à utiliser cette technique dans les hôpitaux, notamment dans le service du professeur Charcot à la Pitié-Salpêtrière. Et un peu plus tard, l'écrivain Stefan Zweig parlera de guérison par l'esprit. Vous êtes d'accord avec cette formule de guérison par l'esprit, docteur Adrien Chaboch?
Mais elle laisse entendre qu'il y aurait des ressources dans notre mental, au sens large du terme. Et ça peut être une considération laïque quand on dit esprit, hein, c'est-à-dire ce qui fait avec le corps. Et en effet, on peut observer des ressources internes que nous avons tous, mais comment les utiliser ? Comment ça se fait qu'un sportif, un athlète de haut niveau, va se dépasser encore quelques secondes? Comment ça se fait que la maman qui voit son enfant sous une armoire va réussir à soulever ça? C'est bien qu'il y a des ressources quand même quelque part. Il n'y a pas de pouvoir magique. Attention, c'est pas magique. Mais il y a des techniques qui nous permettent d'aller à la rencontre, en fait, de ces forces, ces ressources, et qui peuvent alors s'appliquer à un domaine du soin.
Antoine Burier.
Pour ma part, je donnerais une définition un petit peu plus élargie de la notion d'esprit. Il y a une matérialité, bien sûr, à l'esprit qui va être présente. Il y a aussi une dimension que l'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est simplement un art d'exister, c'est un ensemble de valeurs, de sens. C'est le fait de pouvoir s'émerveiller par rapport à des éléments qui existent dans la nature ou des rencontres que l'on peut faire. Et cette dimension de la spiritualité, généralement, elle arrive en bout de course. C'est-à-dire, on part du psyché, on part du soma, et puis il y a la spiritualité derrière.
C'est le corps.
C'est le corps, effectivement. Et cette notion de spiritualité, et que l'on retrouve également dans d'autres cultures, peut-être que l'hypnose est une invitation à la mettre, en fait, au début de la chaîne. C'est-à-dire, quel est le rapport au monde de l'individu? Comment est-ce qu'il peut s'émerveiller de cette réalité dans laquelle il se trouve? Et comment cet émerveillement peut participer de quelque chose de sa santé?
Constance Flamand-Rose.
Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire qu'il y a... Il y a le lien corps-esprit, bien sûr, mais il y a le cerveau au milieu. Et le cerveau, lui, c'est juste un organe. Et notre esprit peut permettre de modifier son fonctionnement, mais notre corps aussi. Et si on arrive à lier les trois, là, on atteint le Graal.
Alors, il se passe quelque chose dans le cerveau pendant une séance d'hypnose. L'hypnose induit une modification de l'activité cérébrale et de la connectivité entre différentes régions du cerveau. Mais comment la voix, des mots, une prosodie peuvent provoquer une conscience, un état de conscience modifié? Qu'est-ce qui se passe exactement, Antoine Bouilloy?
Alors, l'état de conscience modifié, en fait, il est assez simple à provoquer. C'est-à-dire que là, nous sommes actuellement dans un studio. Si à un moment donné, quelqu'un fait irruption, si jamais il y a un micro qui commence à chointer, du coup, notre état de conscience va être modifié. La difficulté va être comment l'orienter, la notion d'intention, et quoi en faire derrière. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, le mot-clé, c'est métaphore. C'est-à-dire que le rapport que l'on a par rapport à la réalité n'est pas un rapport qui est d'abord un rapport de réflexion et de rationalité, il est d'abord un rapport de ressenti. C'est-à-dire, on sent l'ambiance qu'il y a ici, on sent la chaleur de certaines lampes qui sont là présentes, je peux ressentir ce qui est en train de se passer. Et en fait, ce que va proposer l'hypnose, notamment avec les suggestions, c'est ce travail que l'on appelle métaphorique, c'est-à-dire ce travail autour du ressenti, ressentir quelque chose qui va être présent. Et cette notion de ressenti, qu'on appelle aussi parfois le travail analogique, va du coup faire que le corps va commencer à modifier son rapport à la réalité, d'abord dans ses perceptions, et par la suite, il va mettre des mots dessus. Et en fait, le changement, là je vais évidemment très vite, mais la notion du changement, en fait, passe par cette voie-là, c'est-à-dire le ressenti, la métaphore, c'est-à-dire comment est-ce que ce ressenti a une certaine représentation pour l'individu, comment les suggestions en hypnose vont venir modifier cette métaphore telle qu'elle va être présente, et c'est cette modification qui va permettre les avancées thérapeutiques.
Adrien Chaboch.
L'usage de la métaphore va générer un accès, en fait, à des sortes, un peu comme des bibliothèques d'expérience et de connaissances que nous avons tous acquis. Milton Erickson, qui est le psychiatre américain qui a fait de l'hypnose ce qu'elle est aujourd'hui dans notre vision contemporaine, a tout basé sur l'apprentissage et l'éducation. Alors, pas l'éducation, je vous dis quoi faire, comment faire, mais plutôt de faire référence à ce que la personne a déjà vécu dans sa vie et d'y associer... une réutilisation, un lien. Et naturellement, alors, la personne va se mettre à se repositionner, changer. C'est un petit peu comme si on était mal assis sur un siège et que tout d'un coup, le praticien qui est en face nous le fait remarquer. Et en le faisant remarquer naturellement, nous-mêmes, on va se repositionner. C'est assez simple, en fin de compte.
Vous citiez Milton Erickson. On parle donc d'hypnose ericksonienne. Et avec Milton Erickson, disparaît notamment l'idée que c'est le thérapeute qui guérit son patient. Constance Flamand-Rose.
Oui, tout à fait. En fait, le cerveau, il fonctionne par apprentissage, donc notre et par répétition. Donc notre rôle à nous, thérapeutes, c'est d'aller proposer des suggestions comme ça, à base de métaphores, bien sûr, pour que le cerveau reprogramme un nouveau mode de fonctionnement par la répétition, de la même manière qu'on est probablement tombé environ 2000 fois avant de réussir à marcher correctement, qu'on a appris l'étape de multiplication par répétition, etc. Le cerveau, lui, pour se créer une zone un peu différente, va avoir besoin de répétition. Donc nous, en tant que thérapeute, avec les mots qu'on va prononcer, le cerveau, lui, il croit que c'est vrai. Hein. Il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc voilà, il va reprogrammer un mode différent de fonctionnement.
Vous nous direz tout à l'heure comment fonctionne exactement une séance d'hypnose. Nous verrons quels sont les réels bienfaits de l'hypnose validée par la recherche scientifique et quels sont ses dangers quand l'hypnose est mise entre de mauvaises mains avec des risques d'abus et d'emprise. Question témoignage au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter. Ce sera juste après avoir écouté The Isley Brothers qui interprète This Old Heart of Mine, une chanson sortie en 1966, 10h21 sur France Inter. The Isley Brothers interprété This Is All Out of Mine.
Détendez, vous ne vous crispez pas. Relax.
France Inter.
Concentrez-vous sur cette flamme. Imprégnez-vous de sa chaleur claire. Relax.
Grand bien vous fasse.
Oh, je suis bien. Je suis calme. Je suis loin. Je me laisse aller. Oh, que c'est bon.
Ali Rebi.
C'est terrible.
Ah bon?
Une seule séance, mon record.
Et on s'intéresse ce matin au réel pouvoir de l'hypnose, quelques mois après l'affaire Gérard Miller, qui a jeté un voile sombre sur cette pratique.
Fin janvier, le magazine Elle publie les premiers témoignages. Depuis, des dizaines de récits. Plusieurs femmes accusent Gérard Miller de viol et d'agression sexuelle pour des faits présumés entre 1988 et 2020, avec un même mode opératoire qui se dessine. Des femmes, certaines mineures, invité dans sa maison de l'Est parisien, à qui il aurait parfois proposé des séances d'hypnose. Aude parle d'une sorte de blackout.
C'est un professionnel de la santé mentale. C'est quelqu'un qui sait très bien comment fonctionne un appareil psychique. Il sait très bien comment asseoir une emprise. Il sait très bien ça.
Extrait de C'est dans l'air le 29 avril dernier. Alors Antoine Bioy, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie clinique et psychothérapie. Constance Flamand-Rose, docteur en neurosciences et hypnopraticienne. L'affaire Gérard Miller a jeté le discrédit sur l'hypnose. Dans quelle mesure un hypnothérapeute peut-il abuser de sa patientèle? Ce praticien avait pignon sur rue, il était professeur des universités, psychanalyste réputé. De quoi inspirer confiance, Antoine Bioy?
Alors, on parlait de flamme juste dans l'extrait avant, donc je vais d'abord resituer très rapidement les choses, mais vous pouvez prendre une allumette, elle peut vous servir pour allumer une bougie, ça peut vous servir pour allumer un feu de cheminée, ça peut vous servir pour allumer un incendie. Et donc, d'abord, je prends une précaution sur le fait que l'hypnose est une méthode en tant que telle, elle n'est ni neutre, ni positive, ni négative, elle est ce que la personne va en faire en tant qu'outil. Donc, effectivement, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un état de conscience modifié qui va être présent, et effectivement, dans l'état de conscience modifié, la capacité du sujet à dire non va être diminuée, et dans un cadre thérapeutique, on va utiliser d'ailleurs cette compétence, c'est-à-dire, effectivement, ce qui va nous intéresser, c'est de descendre au niveau des métaphores dont on parlait tout à l'heure, moins de raisonnement, de façon à ce que dans un cadre thérapeutique avec une intention bienveillante et bien sûr une formation ad hoc, on puisse aider la personne qui est en face. Néanmoins, effectivement, mal utilisée, l'hypnose peut tout à fait faire en sorte que la personne devienne victime de la personne qui est en face. Alors, il n'est pas contrairement à ce que l'on pourrait penser, en fait, une personne ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il ne se passe rien. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il
ça,
y a
c'est
toujours.
Une idée reçue.
C'est une idée reçue. Il y a ce qu'on appelait dans les années 70, en tout cas, un observateur caché, c'est-à-dire le fait qu'il y a une partie de la conscience qui reste toujours présente. Néanmoins, si la personne est en état de vulnérabilité, et globalement, vous avez deux catégories de figures. Vous avez soit les personnes qui ont un passé, qui est un passé déjà traumatisé avec éventuellement des violences sexuelles qui ont pu être présentes et dans lesquelles la relation à l'autre va réactiver ce passé-là de façon sidérante, ou bien, deuxième cas de figure, la personne qui est en face est une personne d'autorité manipulatrice et qui va effectivement jouer de cette aura qui va être là, va aussi mener à un état de sidération. Et donc l'hypnose est une technique en tant que telle. Les personnes qui ne sont heureusement pas dans les deux cas de figure dont il est question, s'il se passait quelque chose, s'en rendrait compte, mais il est effectivement possible chez des personnes qui sont fragilisées par un passé ou par une rencontre avec quelqu'un de profondément malveillant, il peut effectivement y avoir quelque chose de cet endroit-là.
Constance Flamand-Rose.
Oui, je crois qu'il faut se méfier de « ne vous inquiétez pas, l'inconscient protège ». Il faut se méfier de cette phrase-là parce que ça veut dire tout est permis et on peut y aller un peu les yeux fermés. Il faut quand même faire très attention avec la personne qui va être notre thérapeute. Il faut, comme disait Antoine Bioy, que la personne soit vraiment bien formée avec des intentions thérapeutiques très saines. Pour ça que l'hypnose pour le jeu, c'est un petit peu compliqué.
Adrien Chaboch.
Oui, il faut se défausser de certaines idées fantasmatiques. On aimerait, comme on l'a entendu dans l'extrait, imaginer que l'être humain, on peut lui faire faire n'importe quoi. Alors c'est très nuancé, c'est un peu compliqué quand même finalement. On ne peut pas faire n'importe quoi.
C'est l'idée reçue accréditée par l'hypnose de spectacle.
Oui. Et là, on est, je veux dire, de même qu'un chirurgien peut aussi abîmer quelqu'un, un thérapeute peut aussi abîmer quelqu'un. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le cadre du soin. Et là, c'est très important, on ne parle plus d'hypnose. Pour moi, c'est une position que j'assume entièrement, dire que c'est un spectacle d'hypnose n'est pas véritable, n'est pas une vérité. Il n'y a pas d'hypnose dans le spectacle parce que, à la base, il n'y a pas de soin. Il n'y a pas de soin, on n'est pas au spectacle pour se soigner, je suis désolé. Donc, on ne peut pas admettre ça. C'est un terme qui fait partie du folklore. Bon, par contre, ce qui est très important, effectivement, c'est que, et on va en reparler, c'est que l'être humain peut être manipulé. Ça, c'est une vérité. Mais plutôt que de l'utiliser pour desservir quelqu'un, il faudrait plutôt savoir ce qu'on en fait, mieux comprendre ça. Des massacres de masse ont été commis par de la manipulation humaine. Comment s'échapper de cette manipulation et surtout comment la distinguer? Et dans le soin, on ne manipule pas pour obtenir un bénéfice pour une personne.
Constance Flamand-Rose.
Oui, on peut faire n'importe quoi sous hypnose. Il y avait eu une étude comme ça qui avait été faite en Italie, il y a très longtemps de ça, sur des cambriolages qui avaient été faits, soi-disant sous hypnose. Où les caissiers des banques avaient dit on était sous hypnose, etc. Et ça n'est jamais passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des experts qui sont venus démontrer que non. Ça n'était pas ça. C'était de la manipulation, de la peur, de la menace. Mais ce n'était pas de l'hypnose.
Antoine Burieux.
C'est une vieille histoire, en fait. Vous rappeliez tout à l'heure que l'hypnose date de la fin du XVIIIe. En fait, les premiers procès où les personnes se sont défendues en disant « j'ai été hypnotisé, du coup j'ai été violent, etc. », ça date du XIXe siècle. Il y a plein de minutes de procès qui existent à propos de ça. Donc on met sur le dos de l'hypnose, effectivement, énormément de choses. Il est vrai, encore une fois, il faut pas banaliser cette approche. C'est une approche qui est puissante, et c'est bien pour ça qu'on l'utilise dans un cadre thérapeutique. Donc l'approche, bien sûr, va créer un état qui peut être propice à ce qui se passe un certain nombre de choses lorsque la personne est mal intentionnée, ce qui veut dire que la démarche éthique, elle est fondamentale et elle se joue du côté du thérapeute. C'est-à-dire, effectivement, quelle est ma formation, qu'est-ce que je souhaite faire. Et quand je dis quelle est ma formation, c'est pas simplement la formation initiale, c'est est-ce que je suis en train de pratiquer là où je dois pratiquer. Moi, par exemple, en tant que psychologue, je n'interviens pas au bloc opératoire, même si je travaille dans un hôpital et que, par ailleurs, je suis un professionnel qui travaille dans le champ de la santé depuis maintenant un certain nombre d'années, je rentre pas au bloc opératoire, c'est pas ma place. Et donc également, il y a ça qui va être important, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que l'on peut aller avec l'hypnose dans le cadre de ces indications. Et pourquoi est-ce que cette limite est importante? Parce que s'il se passe quelque chose au bloc, je n'aurai pas les capacités de pouvoir agir.
Quels sont les diplômes pour devenir praticien de l'hypnose, Adrien Chabot? Je rappelle que vous êtes médecin et hypnothérapeute.
Alors, il n'y a pas de diplôme d'État, au sens comme peut l'avoir un infirmier, une infirmière, un médecin, un psychologue, il n'y a pas de diplôme d'État. En revanche, il y a des diplômes universitaires, c'est-à-dire qu'ils sont enseignés dans des universités, souvent de médecine, et ouverts à des professionnels de santé. Ensuite, il y a des écoles privées de différentes qualités et très hétérogènes, mais il y en a beaucoup. Et heureusement, certaines sont affiliées à des formes de regroupement validées scientifiquement et avec un étalonnage pédagogique qui permet de s'en assurer, comme voilà, je pourrais citer la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, la CFHTB, sur lequel sont listées les écoles qui ont fait preuve de leur sérieux.
Redonnez l'acronyme.
CFHTB, Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève.
Alors, en me baladant sur Internet, j'ai vu un tas de gens qui pratiquaient l'hypnose à visée thérapeutique. Il est assez difficile de savoir s'il s'agit de personnes sérieuses ou non. Comment distinguer le bon grain de l'ivraie?
Alors, en s'intéressant à la formation avant tout et certainement, en s'intéressant aussi à la cohérence, comme l'a très très bien dit Antoine Bueil, l'hypnose est un outil entre les mains d'un professionnel de santé. Un psychologue va pas aller au bloc. Moi, je suis médecin, je vais pas aller faire de l'anesthésie. Donc, si vous avez, je sais pas moi, un praticien d'une profession, par exemple un manipulateur radio qui peut aider tout à fait à l'hôpital pour faire passer des IRM, pour les phobies, le stress, etc. Mais si on le voit en ville exercer autre chose, on est par accord. Et ensuite, on peut s'assurer aussi des formations, pareil, en revenant sur notamment les organismes qui ne valident pas, parce qu'il n'y a pas de décision légale là-dessus, mais qui permettent d'assurer un certain niveau de sérieux des formations.
Alors, comment se déroule une séance type d'hypnose? Si, par exemple, un patient vient vous voir pour arrêter de fumer, racontez-nous ce qu'il se passe précisément, Antoine Burieux.
On va d'abord, il y a une première phase qui est une phase que l'on va dire de diagnostic en tout cas ou d'évaluation, c'est-à-dire il y a une rencontre avec une personne, quelle est la demande, est-ce que la demande va être justifiée? Vous parlez par exemple de l'arrêt du tabac, si la personne a 40 ans de tabagisme derrière elle, qu'elle est à 2 paquets par jour et qu'elle dit moi je veux une séance et puis vous claquez des doigts et puis ça sera terminé. Voilà, ça va être un peu compliqué. Le diagnostic, ça veut dire effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière la cigarette, parce que du coup, je vais pouvoir jouer. Quelles sont les ressources, les compétences sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Et puis, bien sûr, de voir si dans la relation, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité qui va être possible, qui fait que la personne va consentir à ce que je puisse utiliser l'hypnose pour pouvoir l'aider.
Il se passe quoi concrètement? Je suis dans votre cabinet. Qu'est-ce qui se passe? Comment se déroule une séance type?
Une fois qu'on s'est entendu sur les objectifs et les objectifs réalistes, à ce moment-là, je vais vous demander simplement de rester là où vous êtes, c'est-à-dire sur le siège. Vous voulez que je vous améliore votre voix, vous, visiblement.
Mais... je sais que ça ne marchera pas.
Je ne sais pas, il faut essayer. Il faut effectivement, en tout cas, c'est un rituel, l'hypnose. C'est-à-dire je vais effectivement vous dire, si vous êtes le patient, je vais effectivement vous dire, ben là, prenez une position juste un peu différente pour être juste disposé à faire cette séance-là ensemble. Et puis, lorsque vous aurez commencé effectivement à trouver la position qui va vous convenir, je vais vous proposer soit de fermer les yeux, soit de pouvoir les laisser ouverts, comme cela peut vous aller. Et ensuite, je vais vous demander de percevoir la réalité telle qu'elle est actuellement pour vous. Et probablement que par la suite, je vous demande demanderait de centrer sur un élément physique. Très souvent, on fait la respiration, de ressentir cette respiration qui va être présente, de pouvoir ouvrir ce que l'on appelle métaphoriquement l'œil intérieur, le regard intérieur.
C'est par exemple.
C'est-à-dire effectivement de dire, cette respiration, elle est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pouvez, avec ce regard intérieur, commencer à percevoir tout ce qui peut être également présent dans votre corps et qui va venir modifier un peu votre perception de la réalité. Là, probablement que vous n'entendez déjà plus depuis le début de l'émission ce tout petit grésillement des lampes qui pourtant sont présents et il suffit que vous n'y prêtiez pas attention pour que ça ne soit pas présent. Et donc, on va utiliser comme ça des éléments de contexte parce qu'ensuite, quand on va parler du tabac, je vais vous dire, et peut-être que comme ce grésillement que vous n'entendez plus, il y a la possibilité que le tabac soit présent dans l'environnement pour les autres, mais que pour vous, cela n'est plus utilité. Et là, on sera dans une phase de suggestion. Et ensuite, on renforcera cette phase-là et retour à l'état de conscience ordinaire.
Constance Flamand-Rose, comment fonctionne cet état de suggestion et quelles images, quelles métaphores utiliseriez-vous pour un patient qui vient vous voir pour arrêter de fumer ?
Ah, ça va dépendre du patient, bien entendu. Chaque patient, c'est une nouvelle page blanche. Et c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que je déteste les protocoles. Donc, ces livres avec plein de protocoles comme ça pour qu'on réciterait, il y a des formations comme ça qui vous donnent des protocoles. Je trouve ça assez terrible parce que finalement, écouter le patient, s'oublier ou oublier ce qu'on croit savoir, écouter le patient, noter vraiment intérieurement tout ce qu'il va nous dire et on s'en sert parce que tout ça va être des ressources formidables. Alors un patient qui veut arrêter de fumer parce que y en avait un jour qui m'avait dit j'ai pas vraiment envie d'arrêter de fumer, donc au départ je me dis c'est pas gagné du coup s'il a pas la motivation. Et en fait c'est ma femme qui veut que j'arrête. Donc ça on nous dit bien au DU attention à la motivation pour l'arrêt tabac et je pense que j'ai dû froncer les sourcils à un moment ou faire une petite moue un peu dubitative et c'est lui qui m'a dit mais finalement arrêtez par amour, c'est pas ça la meilleure des motivations. Et voilà, et la séance a été complètement différente de celle d'avant ou d'après qui aurait été sur l'arrêt tabac parce que cet homme faisait ça par amour.
Docteur Adrien Chaboch, je reviens aux mots, aux images, aux métaphores que vous utilisez dans une séance. Alors évidemment, c'est difficile de parler de séance type tant les patients sont singuliers, mais sur quoi vous vous appuyez pour induire cet état de conscience modifié ?
Profondément sur le patient. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que chaque patient va nous permettre, c'est un peu, moi je considère, entre guillemets, avec beaucoup d'éthique, une énigme qu'on va essayer de résoudre avec lui. Et j'ai besoin de ce que va me dire le patient, son contexte de vie, ses loisirs, ses appétences, un geste, un mouvement. Et c'est là où l'hypnose a quelque chose de très noble, parce qu'elle revient à quelque chose de la médecine, qui est l'observation. Milton Erickson disait, observez, observez, observez encore. Le patient nous donne les clés pour l'aider. L'art de la suggestion, c'est finalement de ne rien suggérer d'autre que ce que le patient peut et souhaite au moment où on est avec lui. Et c'est cette précision, cette acuité du praticien, quel qu'il soit, et qu'il soit au bloc ou en cabinet de ville, que l'on développe progressivement. Alors, tout doucement, il y a ce glissement entre le pragmatisme de « j'ai mal tout le temps, docteur, je fume tout le temps, je n'y arriverai jamais », tout des formes de sorte de conditionnement négatif qui nous emmène à ne jamais pouvoir considérer qu'on pourrait faire autrement. Et doucement, au cours de cette séance d'hypnose, l'entretien, l'induction, la proposition de certaines suggestions directes, indirectes, ou métaphorique, c'est les trois outils que nous avons globalement, ou par le corps aussi parfois, eh bien, va faire glisser le patient vers un état de subjectivité où il dispose de ses éléments de ressources.
Un exemple concret, vous parliez d'induction.
Induction, ça va être tout simplement de capter l'attention du patient, comme là on est en train de le faire entre nous, Ali, et de diriger cette attention du patient vers une chose simple. Comme l'a dit Antoine Bieuil, ça peut être l'expiration. Vous voyez que déjà, si je parle comme ça, c'est déjà autre chose. Ou bien ça peut être de fixer un point. Ou bien ça peut être simplement d'avoir une main un peu au-dessus de la jambe. Et le simple fait de concentrer très attentivement et de maintenir l'attention d'un être humain sur une petite chose comme ça, eh bien figurez-vous que ça l'aide à passer naturellement dans un état de transe.
Antoine Bieuil.
Il y a effectivement cette adaptation que l'on va avoir par rapport au patient. Il y a aussi cette dimension que j'appelle aussi parfois le petit théâtre de l'hypnose, c'est-à-dire l'hypnose va aussi être en partie ce que le patient s'attend à trouver. Et notre travail aussi en tant que thérapeute, c'est de redonner au patient les conditions pour qu'il mette en place lui-même tout ce qui vient de... Alors, tout à l'heure, Constance parlait de motivation, de tous les éléments qui viennent de lui-même et qui vont participer participer en fait au processus de changement, parce que le processus de changement, il est forcément plurimodal, c'est pas l'hypnose qui va faire. L'hypnose, en fait, c'est mettre en place le contexte dans lequel tous les autres acteurs vont pouvoir jouer leur partition, des éléments qui font partie de l'individu lui-même. Parfois, ce sont des interactions avec des collègues, avec des amis. Parfois, c'est simplement une pensée magique qui va suffire pour que quelque chose se passe.
Combien de séances pour arrêter de fumer, pour essayer de réduire le sucre, combien de séances à peu près faut-il ?
C'est assez étonnant parce que parfois une séance peut suffire. Et même avec cette personne dont vous parliez tout à l'heure qui fumait depuis 40 ans un paquet par jour, parfois, si j'avais la solution exacte, la formule magique exacte, vraiment je le ferais. Mais parfois je suis super étonnée d'un patient, entre autres, qui avait des douleurs chroniques depuis des années, qui avait essayé tous les antalgiques possibles. Et finalement, on avait donné une couleur à cette douleur et on l'avait fait changer la couleur. Il a plus jamais eu mal. Et la fois d'après, ça ne marchera pas. Donc c'est bref, en tout cas.
Il y a, en fait, la rencontre thérapeutique va effectivement être importante. Le patient est vraiment là où les choses vont se passer. Et donc la condition du patient, encore une fois, ce qu'il s'attend à trouver, la façon finalement dont il se motive pour que les choses se passent avant même de nous rencontrer, va jouer déjà sur l'influence de ce qui va se dérouler et du processus de changement présent.
Adrien Chaboch.
Et puis on va aussi rappeler que c'est quelque chose à deux. Et qu'il y a le praticien aussi. Et que ce praticien, il ne fait pas rien. Enfin, il fait pas beaucoup de choses. Finalement, il fait des choses simples. Mais il y a besoin aussi de sa présence, de sa disponibilité. Pour le praticien, il y a un travail aussi à faire. C'est-à-dire que, moi, j'ai coutume de dire que quand on fait une séance d'hypnose, le praticien aussi, il se met dans un état léger d'hypnose. Et ça, c'est important de retracer ça. C'est pas une technique qu'on applique avec un protocole, comme l'a très bien dit Constance Flamand-Roux. C'est que le praticien, il fait preuve d'une présence humaine, d'une présence empathique, bienveillante, une présence entière de disponibilité de sa conscience. Ça veut dire que le praticien doit travailler aussi sur lui-même. Il doit travailler sur, de fond, c'est un travail personnel qu'il peut mener pour pouvoir améliorer cette présence humaine, cette disponibilité aux patients.
Tiens, j'aimerais que l'on accueille le professeur Grégory Nino. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous éclairer sur l'évaluation scientifique de l'hypnose. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut d'Hébray d'épidémiologie et de santé publique de Montpellier. Vous êtes également chercheur à l'Institut du cancer de Montpellier. Vous avez publié chez Belin 100 médecines douces validées par la science. Alors, l'hypnose a été étudiée scientifiquement.
En effet, d'abord, je me réjouis que votre voix s'améliore depuis vendredi, quand même, c'est important.
Merci.
Effectivement, les neurosciences élucident, et ça a été évoqué par certains de vos interlocuteurs, effectivement, sur l'explication cognitive, émotionnelle et sensorielle. Et donc, Lionel Nakache, en particulier, a écrit quelques livres, si les auditeurs veulent aller plus loin, sur les aspects mécanistiques. Mais au-delà de ça, la partie d'intervention, c'est-à-dire la façon dont on intervient entre une technique, un protocole de soins et une approche. Une technique, ça peut être que de l'auto-hypnose. Un protocole de soins a une visée thérapeutique particulière et une approche devient un art de vivre. Ça a été évoqué. Et là, effectivement, sur l'évaluation de ces protocoles de soins, même si effectivement la relation entre le thérapeute et le patient est importante, on voit qu'il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres. Et effectivement, lorsqu'on rentre dans des précisions sur les indications, ça veut dire donc un problème de santé particulier, un sevrage tabagique ou le traitement de la douleur, des méthodes sont meilleures que d'autres et donc des protocoles de soins peuvent être effectivement évalués par des essais cliniques rigoureux et dans ce cas-là, finalement, ces médecines traditionnelles deviennent des interventions non médicamenteuses et tout l'enjeu, et vous l'avez évoqué dans votre émission, fait que la formation des professionnels de l'hypnose et de l'hypnothérapie devrait effectivement être beaucoup plus centrée sur ces essais cliniques permettant d'avoir des protocoles reproductibles et donc une garantie d'efficacité supérieure pour les patients.
Alors, professeur Grégory Nino, que dit par exemple le rapport publié en 2015 par l'INSERM sous la direction de Bruno Falissard, directeur du département de santé publique de l'Université Paris-Saclay ? Que dit-il en substance ?
Il dit en substance qu'il y a effectivement des indications sur lesquelles des protocoles d'hypnothérapie vont être efficaces, mais que effectivement ce n'est pas la panacée, qu'elle ne guérit pas tout, et tout l'enjeu est d'accélérer la recherche pour que, au-delà du traitement de la douleur, au-delà du traitement de l'anxiété, de certains troubles dépressifs ou du sevrage tabagique, il faut aller plus loin pour effectivement avoir des protocoles plus ciblés.
Alors, quelles sont les pathologies où l'hypnose est réellement efficace ?
Je viens de l'évoquer, en fait, c'est rarement des pathologies en tant que telles, c'est-à-dire qu'elle ne guérit pas des pathologies. En revanche, lorsqu'il y a des symptômes tels que la douleur, de la douleur chronique, tels que des comportements à risque comme la consommation du tabac, effectivement, elles vont avoir une significativité. Mais tout l'enjeu, c'est qu'il y ait plus de financement de recherche. Je préside une société savante qui s'intéresse aux interventions médicamenteuses. Le problème, c'est qu'on investit beaucoup sur la recherche médicamenteuse, et tout l'enjeu, c'est aussi d'avoir de la recherche plus importante pour définir ces protocoles et qu'elles servent la communauté des praticiens.
Et comment se passe une évaluation scientifique de l'hypnose ? Elle doit se dérouler de façon randomisée, cela veut dire que cela inclut une comparaison avec un groupe témoin ?
En tout cas, tout l'enjeu du travail que nous avons mené pendant 3 ans, c'est effectivement de proposer aux chercheurs, à la communauté des praticiens, un modèle français d'évaluation de ces protocoles. Et effectivement, il peut y avoir des méthodologies rigoureuses afin d'évaluer des interventions humaines et effectivement de garantir une reproductibilité. Et bien sûr, ça a été évoqué avec une personnalisation, mais on peut comparer deux méthodes. On peut comparer une psychothérapie avec une thérapie cognitivo-comportementale avec une méthode d'hypnose. On peut comparer avec un programme d'éducation pour la santé. Et effectivement, on va pouvoir ainsi avoir sur des marqueurs d'intérêt, par exemple l'arrêt du tabac, savoir si effectivement cette méthode est meilleure que l'autre. Et parfois, dans certaines conditions où les patients vont avoir de grandes difficultés, il peut y avoir des thérapies associées, donc combinées à des médicaments, par exemple, pour avoir un effet supplémentaire.
Antoine Bury.
C'est effectivement une notion qui va être importante. Il y a aussi ce que l'on va appeler la notion de guérison. C'est-à-dire que on parlait de douleur chronique tout à l'heure. Dans la douleur chronique, globalement, si je prends une échelle de 0 à 10, en fait, le patient va dire qu'il n'a plus de douleur, s'il est à 1, 2, parfois 3. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va plus être gêné par le percept douloureux. Et il va se dire guéri, alors que si jamais on est juste dans des mesures qui sont des mesures physiologiques, on remarquera que la douleur va continuer à être présente. Si on voulait être rigoureux pour l'arrêt du tabac, il faudrait que toutes les études aillent au-delà de 2 ans. Globalement, l'effet placebo dans le tabac, c'est entre 3 et 6 mois. Et puis, il faudrait aller voir au-delà de 2 ans si ça fonctionne. Mais lorsque quelqu'un arrive déjà à arrêter 1 mois, 3 mois, 6 mois, il y a déjà quelque chose qui se passe. Il y a déjà un processus en fait qui est déjà engagé. Et donc, c'est vrai que souvent, c'est qu'est-ce que l'on met derrière les termes. Et c'est vrai que de plus en plus, on va parler de prendre soin plutôt que de guérison pour marquer que l'on est dans un processus et sur une avancer en santé.
Merci beaucoup Grégory Nino d'avoir participé à cette émission. Il est 10h48, on est très en retard. Il est l'heure de retrouver la chronique médicale du docteur Adrien Chaboch.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Adrien Chaboch.
Aline, aujourd'hui, c'est une chronique spéciale, car on parle d'hypnose, et c'est un sujet qui m'est aussi personnel. Je suis pas très vieux, mais plus de la première jeunesse non plus, étant donné ma femme qui me rappelle mes cheveux blancs que je continue de nier pathologiquement. Mais je suis toujours assez surpris de me rappeler que la première fois que j'ai hypnotisé une personne, j'avais 17 ans. Ça fait donc 25 ans que j'arpente ce que l'hypnose a de passionnant. Alors le médecin que je suis va s'autoriser à vous dire, avec transparence, Ali, que je dois beaucoup à l'hypnose. Sans elle, je ne me serais pas sorti des traumatismes qui m'ont tant fait souffrir de mon enfance à l'adolescence. C'est par un instinct de survie que j'ai cherché une façon de reconnecter mon corps à mon mental, séparés l'un de l'autre par un syndrome dissociatif post-traumatique. Et un jour, j'ai fait une séance d'hypnose qui a changé ma vie. Rien de spectaculaire, aucune formule magique, ni suggestion théâtrale, bien au contraire. L'hypnose, c'est l'opposé de ces spectacles de scène qui n'ont rien d'hypnotique lorsque c'est la manipulation qui prend la place du consentement. Ce jour, qui a marqué un après, je me rappelle précisément, et simplement, la lumière dans la pièce, l'heure, et de quelques mots soufflés à mes oreilles par ce médecin. Et c'est un grand espace de liberté et de respect que j'ai retrouvé dans mon corps. Alors, si le spectacle est diamétralement l'opposé, il est vrai que j'en ai vu des faits surprenants avec l'hypnose. Des patients aussi tabagiques que le nuage goudronneux qu'ils laissaient sur leur passage lâcher leur dernier paquet de cigarettes et me dire des années après que cette drogue ne fait plus partie de leur vie. D'autres retrouvant la sensation de faim et de satiété après des années de compulsion alimentaire, des douloureux chroniques disant « Maintenant, la douleur fait partie de ma vie, mais elle n'est plus toute ma vie. » Ou encore des phobiques trouvent une place à leurs angoisses qui ne les empêchent plus de vivre. Je reste moi-même parfois incrédule à constater ces changements chez ces patients. Mais ne pensez pas qu'il s'agit de moi comme un super thérapeute. Non, non, non. Laissez-moi vous dire que je ne fais que faciliter ce qui est naturellement bon et suffisamment thérapeutique en chaque être humain pour qu'il puisse faire quelque chose qui va l'aider à se soigner. Je ne fais que créer un contexte favorable pour que chaque patient retrouve une liberté de faire thérapeutiquement pour eux ce que je ne peux pas faire à leur place. Mais voilà, l'hypnose, c'est une réelle technique de soin, parmi beaucoup d'autres aussi, là où aucune n'est miraculeuse. L'hypnose peut certes s'apprendre facilement, mais ce qui n'autorise pas à s'improviser médecin ou thérapeute. Il ne faut pas confondre l'outil et le savoir-faire issus de longues études de médecine ou de psychologie, par exemple. Si j'apprends à tenir un stylo, cela ne fait pas de moi un écrivain, au risque sinon de tomber dans le fantasme de la toute-puissance propre aux charlatans et autres dérives sectaires. Contrairement à ce qui a été dit par un collectif luttant contre la désinformation médicale, démontrant malheureusement leur évidente méconnaissance du sujet, l'hypnose n'est pas un système de pensée à part hors de la médecine conventionnelle. C'est un outil entre les mains d'un professionnel de santé qualifié, c'est-à-dire une pratique non médicamenteuse qui a sa place dans le traitement de la douleur et de bon nombre d'applications en psychologie, dans une approche intégrative, c'est-à-dire jamais à la place des soins conventionnels. Alors oui, en effet, l'être humain est manipulable et l'hypnose n'y est pour rien. Oui, cela fait peur et chaque jour des patients me disent craindre à nouveau la folie humaine des bruits de bottes qui résonnent non loin de nos frontières. Mais l'hypnose est un humanisme, car elle nous montre avec une simplicité désinvolte qu'un humain qui a du bon peut protéger la liberté d'un autre.
Tous les épisodes de la chronique médicale d'Adrien Chaboch sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, nous verrons comment fonctionne l'auto-hypnose. On se retrouve juste après avoir écouté Marion Rampal et Bertrand Belin qui interprètent De Beau Dimanche.
Où partait l'aurore dans ses bagueries, dans ses eaux bleues. Accroché à l'arbre, la vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras. Deux pas pour le bal, trois sur le côté. Passer lentement sous le ciel qui change ses habits. Puis le reste en nous s'attourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon nom. jusqu'au ciel et tourne mon ombrelle. Ce n'était qu'un doux rêve.
Marion Rampal et Bertrand Belin interprétaient De Beaux Dimanches.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Et on s'intéresse au réel pouvoir de l'hypnose quelques mois après l'affaire Gérard Miller qui a jeté un voile assez sombre sur cette pratique. Et nous accueillons Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors vous...
Merci de prendre mon message.
Alors vous avez utilisé l'auto-hypnose ?
Oui, alors moi j'ai démarré en 2010, donc c'est déjà un peu ancien, mais c'est un outil que je me suis totalement approprié. Je souffrais de douleurs chroniques, invalidantes, et qui ont complètement altéré ma vie quotidienne. Et j'ai été prise en charge par un médecin psychiatre qui m'a enseigné l'auto-hypnose, et ça a changé ma vie. Je dois dire que, enfin, j'en parle avec beaucoup d'émotion.
Racontez-nous.
Ben, écoutez, quand vous avez l'impression de, enfin voilà, vous prenez des médicaments, vous vous en sortez pas, vous êtes totalement, enfin au quotidien, j'avais la sensation d'être un légume, de plus pouvoir réfléchir, de, voilà, ma vie professionnelle était au point mort, ma vie familiale était compliquée. Prendre des médicaments au quotidien, c'est dur. J'avais vraiment envie de sortir de ça et j'ai été orientée par un médecin spécialiste, psychiatre, et qui m'a enseigné au quotidien l'auto-hypnose, hein, qui m'a pris en charge. Et ça a totalement changé ma vie parce que j'ai pris possession de cet outil. Et ça m'a permis totalement de reprendre ma vie en main. Voilà.
Antoine Bieu, expliquez-nous juste.
J'ajouterais que j'ai pu transmettre ça à un de mes enfants qui a eu à un moment donné des problèmes de santé et qui aujourd'hui est un jeune adulte, hein, et qui lui aussi s'en est saisi. Voilà, et je voulais dire que c'était vraiment quelque chose d'important et qui me semblait nécessaire peut-être de réfléchir aussi à une approche peut-être plus généralisée. Voilà, parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme outil. Voilà, et le terme d'outil, j'y tiens aussi beaucoup, et j'étais ravie d'écouter ce matin votre émission. Voilà, merci.
Antoine Bieuil, comment fonctionne cet outil ? Comment fonctionne l'auto-hypnose ?
Comme Valérie l'indiquait, il y a quelque chose qui va être présent au niveau de la globalité, c'est-à-dire déjà, c'est de permettre à la personne de reprendre possession des moyens thérapeutiques. On ne va pas voir quelqu'un qui va prescrire, qui va faire, c'est l'individu qui va faire par lui-même. On le disait tout à l'heure, c'est un état de conscience modifié, on a tous cette ressource, on ne pense pas tout le temps à l'utiliser. Et finalement, ce que l'on appelle auto-hypnose, c'est lorsque l'on apprend un rituel qui va nous permettre, en peu de temps, hein, 4-5 minutes suffisent pour faire un exercice d'auto-hypnose, de se poser et de vivre de façon un peu décalée, un peu différente la réalité dans laquelle on est. Pour reprendre ce que je disais au début, bah, la douleur, par exemple, de Valérie, plutôt que d'être en position d'actrice de sa douleur, de se dire, bah, je me pose, j'observe ma douleur dans le corps, et déjà, elle a diminué de 20% sa douleur. Et donc, c'est ça, en fait, l'auto-hypnose, c'est ce positionnement différent dans l'existence en utilisant ce jeu autour des états de conscience.
Consensuellement rose.
Ça peut être quelque chose de très simple, hein, simplement se focaliser pendant quelques instants sur tout ce qu'on ressent et tout ce qu'il y a autour de nous au niveau de nos cinq sens, et puis se décaler nos cinq sens sur autre chose. Et à ce moment-là, si... comme
sur une image rassurante, par exemple.
Ça peut être cette image rassurante. Moi, j'appelle ça le lieu d'or, le lieu dans lequel on se sent vraiment bien. On décale, au lieu d'entendre les bruits de voiture, consciemment, hein, on se dit, ben là, je vais plutôt entendre les cigales. Et hop, et on fait venir une espèce de carte postale, une espèce de photo, et petit à petit, sens après sens, on s'y décale complètement. Et du coup, la perception du corps réel dans le moment, elle est décalée sur un moment qui était agréable.
Et nous consacrerons une émission entière à l'auto-hypnose. Merci beaucoup Valérie pour votre témoignage. Merci beaucoup Antoine Bieuil, Constance Laurence, et merci beaucoup docteur Adrien Chaboche. Demain, est-ce que les philosophes peuvent nous aider dans notre sexualité avec Philosophie Magazine ?